vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 19. Famille, je vous hais. Ah, chers amis, bonjour. Ah, mais alors, par exemple, vous êtes dans le tram, vous les regardez, vous avez l'impression de tous bien les connaître. Ils sont tous les mêmes, il y en a partout, ces zombies avec leur index à angle droit crochu en train de taper sur l'écran de leur iPhone et d'envoyer un TikTok, WhatsApp, bottom book à leur voisin qui est dans le wagon à côté. Les réseaux sociaux, c'est comme ta mère, t'as envie de la quitter, mais tu n'y arrives jamais. Vous les observez, il n'y en a pas un avec un livre. Par exemple, L'idiot de Jean-Paul Sartre en 3 volumes. Oui, je sais, Dostoïevski. Mais là, c'est L'idiot de la famille sur Flaubert. Et puis, le titre de l'épisode, c'est Gide, famille, je vous hais. Ils sont là, tous plongés dans leur iPhone. Ils lisent la moitié d'une phrase et ils tournent la page d'un pouce paresseux. Ils sont sous la coupe de leur pouce. On devrait leur couper le pouce. Au lieu de le sucer, c'est comme ces femmes avant MeToo sous la coupe de leur mari ou pire, sous la coupe de leur famille. Et en plus, elles aiment ça, comme ces petits idiots qui aiment leur bourreau d'iPhone au lieu de se barrer et d'aller voir ailleurs où l'herbe est plus verte. Alors je vous lis la phrase en entier de Gide. « Famille, je vous hais, foyer clos, porte refermée. » Possession jalouse du bonheur. Alors, chers auditeurs et chers amis autour de la table, est-ce que vous tous, vous aimez votre maman ? Alors, il y a Ozu Schreiner-Dieparer, qui est professeur de japonais, Zoé Harpel, qui est sage-femme, David Gondard, qui est sage-femme aussi, on dit le maïoticien, Kay Beck, qui est guitariste Gibson, et Claire Pedotti, cuisinière en école maternelle. Alors, Ozu, est-ce que vous aimez votre maman ?
まあ、場合にもよりますけど、そうですね。やっぱり、母親に育ててもらいましたから、そうだと思います。
Alors, je traduis, c'est en voyant tous les films de mon ancêtre, Ozu et Kurosawa, que j'ai eu l'idée que ma maman était quelqu'un d'absolument exceptionnel. Et dans la famille, c'était elle la plus importante ?
そうですね。
Alors, la réponse est très très longue, hein, même si c'est juste en deux phrases. C'est effectivement, dans la famille, dans cette société matriarcale, où la famille... Mais je vais demander peut-être à Claire de m'aider, puisque dans une autre vie, elle était interprète professionnelle.
Mon cher Ambroise, je ne sais pas quel japonais vous parlez, mais il n'a pas du tout dit ça.
Bon, alors, il n'y a pas de japonais au numéro que vous avez demandé. Dites-moi, Ozu, est-ce que vraiment l'idée de famille, c'est quelque chose de très important ? Je crois que vous parlez bien l'alsacien, ou même le français. Oui.
J'espère.
Oui.
Et donc, c'est pour moi, c'est ça ?
Oui.
Oui. Bon, j'ai été élevé par ma mère, non ? Forcément, non, je pense que...
Oui.
Oui, donc j'ai été élevé par ma mère, que forcément elle a de l'importance dans ma vie, je pense.
Et vous êtes là à Strasbourg, à quand même quelques milliers de kilomètres de votre Japon natal, hors du charnier natal. Et donc vous communiquez avec elle par iPhone
Moi je n'ai pas d'iPhone, mais moi j'ai un smartphone de piètre qualité et, et j'ai une application qui s'appelle Line. Donc là, je l'appelle de temps en temps et on parle.
Oui. Et donc, vous avez comme ça son visage et tout.
Oui, mais voilà. c'est très bien parce que comme ça, je n'ai pas besoin d'être avec elle tout le temps. Non. Parce que j'ai passé 3 semaines au Japon cet été et au bout de 3 jours, bon, ça me suffisait. Non.
Vous en aviez marre, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on ne dit du bien de sa maman que quand elle est morte. Mais je sais pas. Je vais demander à Zoé Appel qui, bon, quand un bébé va naître, vous avez la future maman et la maman qui est là. Est-ce que au premier coup d'œil, vous voyez si ça va être une bonne mère ou une bonne maman comme la confiture, ou au contraire, vous voyez tout de suite que ça va être une peau de vache que les enfants vont mettre 18 ans à quitter?
Je crois que le moment de l'accouchement, il est tellement complexe, douloureux et difficile qu'on ne peut pas du tout savoir. Je ne pourrais pas répondre à votre question. Hein.
Non, mais sans les aspects techniques et tout, comme ça, au premier coup d'œil, on juge les gens, c'est totalement...
Mais non, mais parce qu'une maman, une maman peut crier après son mari en disant « c'est de ta faute, tout ce que je vis là », etc. Et ce n'est pas pour autant qu'elle ne sera pas proche de son enfant. Peut-être qu'elle sera un peu plus éloignée du mari pendant quelques jours, c'est possible, je ne sais pas.
Oui, alors, David Gondard, bon, c'est un merveilleux métier d'être sage-femme, hein, puisque le mot « femme » ne veut pas dire que... Hein, c'est celle qui donne la vie. Et donc, est-ce que vous sentez que parfois, les parents vont être un poids énorme, ou alors pas forcément les parents, mais la famille, dans la salle d'accouchement, vous avez tout le monde qui est là en train de suivre, comment ça se passe?
Alors, pour commencer, ma maman me disait toujours que j'étais impatient. Elle me disait « Tu t'impatientes avec tes patientes. » Donc, je suis plutôt de faire sortir de la salle toute la famille. Je ne garde que les parents de l'enfant. Donc, des parents agaçants, il y en a, mais je pense que je suis également pas très patient. Donc, c'est peut-être ma faute.
Est-ce qu'en 2023, il y a encore des familles où on voit que la maman et le papa, ça a été un truc arrangé parce qu'ils font partie de la même secte, de la même religion, de la même, du même quartier, du même, les avocats qui épousent des avocates parce que, voilà, pour que ça reste dans la famille.
Les sages-femmes qui se marient entre elles.
Les sages-femmes qui se marient entre elles, oui. Est-ce que votre épouse est sage-femme?
Oui.
Ah, eh ben Claire, bravo. Donc voilà, quelle intuition, voilà. Alors bon, donc est-ce que ce côté-là n'est pas trop pesant?
Non, on se complète.
Oui.
Puisque moi j'ai le côté masculin du sage-femme et ma femme de la sage-femme. Donc moi depuis, je vis à Mayotte. Donc comme je l'ai indiqué, Jean Mayotte à Mayotte. Et à partir de là, ma femme m'aide, mais avec un autre point de vue, complètement différent.
Formidable. Mais alors, il y a des accouchements qui se font en musique. Hein. Maintenant, je crois que c'est quelque chose d'assez...
Invite parfois des musiciens pour accompagner l'accouchement. Tout à fait.
Alors, ils jouent quoi? Du Mozart ou du Jeff Beck?
Tout dépend de la maman. Oui. Parfois, nous dit « Oui, je veux du Jeff Beck ». Parfois, nous dit « Non, je préférerais plutôt oui Beethoven, Mozart, ou du Cohen, ou du Dylan, ou du Antoine, ou Je m'éclate au Sénégal ».
Oui, Martin Sarkis.
Ou la danse des canards. Pour se souvenir d'il y a 9 mois, lorsque...
Oui, parfois on fait la chenille, le petit train, bien sûr.
Voilà. Alors, Kai, vous êtes musicien, spécialiste des maternités, hein, puisque vous allez jouer avec votre Gibson. Alors, elle est électrique, votre guitare?
Ah ben, évidemment qu'elle est électrique, frérot. Là, quand il y a des accouchements, il faut peut-être préciser ce que dit mon collègue. Le choix de la musique détermine le futur caractère de l'enfant au moment où il naît. Alors, moi, la danse du canard, frérot, pas avec moi, mais nous, c'est plutôt rock'n'roll. Hommage à Jeff Beck, le grand Jeff Beck. Oui. Et il faut mettre du rock'n'roll pour que les enfants deviennent à peu près corrects.
Alors, voilà. N'oubliez pas que la danse des canards, Jeff Beck, Beck, canard, il y a quelque chose là.
Beck, canard, c'est très bien vu, mais moi, je pense qu'il faut étendre à rock'n'roll. Comme ça, les enfants, on peut bien les élever.
Voilà. Et alors, le papa, il peut dire « no satisfaction ». Par exemple, il attendait un garçon, il a une fille.
Ça dépend aussi un peu de la couleur de la peau. S'il y a des surprises, effectivement, là, il y a le grand Mick Jagger qui intervient.
On peut dire que c'est la faute à l'arrière-grand-père, à la grand-mère.
Exact. Ça saute toujours
les petites souris de Mendel et tout ça. Voilà, ça saute.
Mais
tout.
Ça n'arrive pas quand on joue du rock'n'roll, frérot.
Oui. Ah. Mais alors, quand même, une fois que les enfants sont nés, on reviendra après avec Ozu au Japon, hein, parce que c'est... Mais ils sont là. C'est mignon. Bon, ça bouge plus que des Pléiades dans une bibliothèque, d'accord. Mais enfin, on a ces gamins qui sont là. Ils vont à l'école maternelle. C'est formidable. Pendant ce temps, on peut aller travailler, on peut faire autre chose. Il y a des gens qui les gardent.
Sauf quand il y a grève.
sauf quand il y a des grèves. Et puis, il y a...
Ça sort du cœur, là.
Voilà, il y a une cuisinière à l'école maternelle qui leur fait à manger et ils adorent. Ils disent, maman, à l'école, on a mangé. Enfin, ils parlent peut-être pas, non, à l'école maternelle. Si. Qu'est-ce qu'ils aiment bien, les raviolis ou...
Ah oui, les pâtes, c'est un grand... C'est d'ailleurs pour ça que je suis devenue cuisinière en école maternelle. Puisque je suis née d'une mère italienne qui m'a forcée à manger toute ma vie, je me suis dit qu'il fallait quand même que je punisse les futures générations.
Voilà, vengeance. Il faut punir les enfants. Ça, c'est la leçon de cet épisode. Voilà, voilà. C'est vrai. Donc, alors, des pâtes, des pâtes.
Alors, des pâtes de toutes sortes. Ça, c'est sûr.
Oui.
Et
c'est vite épluché aussi. Hein. Ça, je répète
oui,
toujours
bon,
ça.
Oui, la sauce, c'est long à faire.
Hein. Ah oui,
ouais, oui.
Mais tu les manges à quelle sauce?
Ah ben, les enfants aiment bien avec de la sauce tomate, de la sauce bolognaise, ou avec du tofu pour certains, parce que les parents râlent.
Ils ont le droit de manger avec les doigts? Oui, en fait.
Ah, moi, je m'en occupe pas du tout, c'est pas moi qui m'occupe de la discipline. Hein. Moi, bah, je suis une nourricière. Et dans toute mère, il y a une nourricière. Et dans toute nourricière, il y a une tentation de la prise de pouvoir.
Ah! La tentation de l'Occident aussi.
Le mais putsch.
Le putsch, oui. Le alors, putsch. Bon, ça nous ramène à ce magnifique monument aux morts à Strasbourg, de la mère nourricière. On voit bien les deux saints avec les deux garçons qui ont fait la guerre. L'un est mort dans l'armée allemande, l'autre dans l'armée française. Et la mère nourricière, qui est l'Alsacienne type, elle est là. C'est pour les Strasbourgeois qui se promènent. Je pense qu'il faudrait à chaque fois s'arrêter devant ce monument et penser à
cette pauvre femme qui est restée toute seule avec ses chepettes.
Voilà. On comprend pourquoi Gide a écrit « Famille, je vous hais hein. ». Oui. Bon, je ne sais pas s'il était venu à Strasbourg, de retour de Russie, mais avant de partir au Congo. Mais oui, c'est quelque chose de... Alors, bon, on parle là comme ça, mais au Japon, oui.
Oui.
Le cliché que l'on a, c'est qu'il y a un culte de la famille qui est énorme. Hein, c'est très important. Oui. Oui, Ozu.
Oui, je crois que oui, surtout dans les familles traditionnelles. Mais après, vraiment, parfois, c'est vraiment de n'importe quoi. Hein. Et il y a beaucoup d'enfants mal élevés, comme partout, comme ici, par exemple. C'est pareil au Japon. Donc c'est...
Mais dans les films d'Ozu, votre ancêtre, oui. La famille, dans Voyage à Tokyo, la famille est un... C'est le ressort de tout le scénario, oui. C'est les enfants qui se sacrifient pour leurs parents.
Oui.
Oui. Donc c'est encore quelque chose d'actuel en 2023
Moins qu'avant, je pense. Parce que je crois qu'il y a 60 ans, par exemple, et il y en a, par exemple, quand il y en a qui sentaient comme s'ils avaient jeté ses parents quelque part lorsqu'ils devaient les mettre à la maison de retraite. Mais je pense que déjà les maisons de retraite ont évolué, donc je pense que ça a changé. Donc. Donc là, il y a des changements. Non. Et dans d'autres domaines aussi, non. Il y a de moins en moins de familles qui vivent avec leurs parents ou avec leurs beaux-parents.
Ça n'existe plus, les familles. Alors moi, je vous parle des années 50, où il y avait trois générations hein, dans l'appartement. Les grands-parents, les parents et les enfants. Bon, les grands-parents faisaient un peu babysitter. Mmh. On trouvait qu'ils piquaient la grand-mère quand on était obligé de lui faire la bise.
Ah oui, ça c'est vrai.
C'est vrai, oui, tout ça. Mais alors, juste une question encore par rapport au Japon, c'est aussi un cliché, mais vous voyez, par exemple, les kamikazes qui vont monter dans l'avion, ils ont juste assez d'essence pour aller s'écraser sur un navire américain. Mmh. Est-ce qu'ils demandaient... la permission, entre guillemets, à leurs parents. Hein. C'était des jeunes de 18-19 ans. Ils savaient qu'ils allaient mourir, mais c'était pour l'empereur. Est-ce qu'ils en parlaient à leurs parents avant de partir ou c'était...
Bon, d'abord, bon, le mot kamikaze se prononce kamikaze à la japonaise. Donc c'était pas grave. Et puis, il recevait une petite feuille du papier en rouge. Et après, bon, il devait aller à la guerre. Et on disait que lorsqu'ils allaient mourir, ils disaient quelque chose comme « Vive l'empereur !» Mais en vérité, on dit qu'il appelait le nom de leur mère.
Mm-hmm. Oui. Oui. Maman, maman.
Oui. Après, en ce qui concerne la permission, bon, ce n'était pas la question de la permission parce que c'était obligatoire. Mm-hmm. Parce qu'ils devaient aller, sinon ça devait être une honte dans son village, dans son quartier. Non
Oui. C'est vrai que les soldats, avant de mourir, et j'ai recueilli des témoignages sur l'opération Nordwind dans le nord de l'Alsace, donc janvier 1945, les soldats allemands, tout jeunes, 17 ans, 18 ans, blessés, ils pleurent, ils sont dans la neige et tout, et donc ils criaient « Mutter, Mutter !» Ouais, je veux dire, le soldat, avant de mourir, il appelle sa mère. Ça, c'est quand même assez émouvant et c'est quand même c'est terrible. Mais là, le bruit, c'était le bruit de la guerre, c'est autre chose. Là, on peut penser que la maman, elle sert à quelque chose quand même. Il y a le souvenir, la mémoire, on a envie de la glorifier.
Mais c'est quand même, on se rappelle de tout ça. Et aujourd'hui, en l'an 2023, au lieu de faire du rock'n'roll, on refait exactement le même scénario. Et on a aujourd'hui même plein de jeunes personnes qui meurent, qui crient après leur maman. Je pense savoir tout ça sans réagir, sans décaler tout ça sur plutôt du rock'n'roll, c'est franchement minable.
Oui. Mais alors, encore un souvenir personnel, j'ai habité à Haguenau dans ce qu'on appelait un bloc, donc un immeuble genre HLM, et je pense qu'on avait beaucoup plus de relations avec les voisins qu'on voyait tous les jours. Il n'y avait pas de clé sur les appartements, quand il fallait des oignons, quand il y avait une fête chez quelqu'un, ils allaient dormir chez les autres et tout, qu'avec la famille, qui était quand même très loin, à 60 km ou à 30 km, et qu'on ne voyait qu'une fois tous les 15 jours ou les 3 semaines. Donc, on peut choisir sa famille. C'est les voisins. Hein. Je ne sais pas, je ne parle pas de la fameuse chanson « On ne choisit pas où on est », mais est-ce que cette glorification de la famille que l'on trouve dans toute la poésie, hein, je demande à David, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'un petit peu artificiel?
Alors, sans famille, il n'y a pas de généalogie.
Hector Malo.
Donc, oui. Moi, je vous parle en tant que sage-femme, bien entendu. Et la poésie, pour nous, est importante. Je pense qu'on ne pourrait pas se lever le matin sans poésie. Faire naître et puis voir le résultat, quand on entend parler de kamikaze, de guerre, de mort, on se dit on est en train de faire naître pour les voir mourir. Donc, la poésie nous aide. Et le rock'n'roll.
Oui.
Et le rock'n'roll,
oui, mais alors ça a été d'une triste réalité historique où on demandait aux mamans de faire des enfants pour la patrie. Hein, les Lebensborn, voilà.
Oui, oui. C'est sûr. Ouais, je ne suis pas sûre qu'elles aient marché dans la combine. Hein.
Ah, les mamans.
Non, elles ne faisaient pas des gosses pour les donner à l'hôtel de la patrie, je ne crois pas. C'est elle qui les sauvait.
Quand même, les soldats rentraient du front et si elle était blonde aux yeux bleus, elle passait la casserole. Hein. C'était quelque chose de, quand même, c'est documenté et tout. Il y a une journaliste du Monde qui a fait des formidables reportages sur ses enfants, hein, qui ont, psychologiquement, ça doit être assez compliqué quand même d'assumer.
Ah, tu parles du Lebensraum ?
Oui. C'est ça.
Ah oui, mais ça c'était un truc particulier des nazis.
Oui.
C'est un programme.
C'est
non, je croyais que tu parlais en général. Ben les mères dans le monde entier ne font pas des enfants pour les envoyer à la grande boucherie.
Non. Donc je sais pas, Zoé, est-ce que les mamans comme ça d'instinct aiment tous leurs enfants?
Je ne suis pas sûre.
À part les accouchements sous X pour s'en débarrasser après. Mais après, maintenant, on a le droit de retrouver le dossier, de retrouver sa famille.
Ce qui est une bonne chose, de savoir d'où on vient.
Oui.
Non, je pense que l'amour qu'on peut porter à son enfant, il n'est pas inné forcément. Mais il y a quand même une forme d'amour, j'imagine. Mais elle est peut-être très différente d'une personne à l'autre. Ce n'est pas forcément instinctif. Et pour autant, on ne sait jamais, avant de faire un enfant, si on va l'aimer ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a le désir de faire un enfant, de part et d'autre.
Oui.
Du côté de la mère, du côté du père aussi.
Et de la pression du clan.
Ça peut être la pression du clan, ça peut être parce qu'un parent veut des petits-enfants et qu'on va, d'une certaine manière, lui offrir cet enfant.
Ou parce que le gouvernement vous offre, à partir du deuxième enfant... au lieu d'avoir une demi-part sur les impôts, vous avez une part complète. J'ai entendu ça à la radio. Je pense que c'est récent, ça. J'ai entendu ça. Enfin, c'est une proposition de loi en France pour repeupler la France avec des vrais Français. Et je pense qu'il faudrait pendre le député qui a eu cette idée.
Moi, je pense qu'on fait des enfants un peu avec un peu d'inconscience. Il faut un peu d'inconscience pour faire naître un nouvel être dans ce monde, à mon avis. Donc, je ne suis pas sûre qu'on les fasse pour des lois. Ou... Voilà, je pense qu'on le fait parce qu'on le fait.
On est quand même des animaux. Oui. Donc, on se bat pour la survie de l'espèce. Faut quand même pas,
C'est ancré en nous. Ouais.
Oui, enfin,
c'est aussi ancré
parfois,
en nous.
On le fait aussi pour ressortir ses vieux jouets, pouvoir avoir de nouveau ces vieux Lego qui étaient dans une boîte.
Absolument. Voilà,
avant, tiens, j'ai envie de rejouer avec mon bateau pirate.
Et le train électrique. Mais malheureusement, les gosses... Maintenant...
Et les auto-téléguidés.
Ouais, ça, j'adorais. Circuit électrique. Ah oui, auto-téléguidés, mais il y avait aussi les circuits électriques.
Oui. Oui, mais enfin, quand même, bon, le premier enfant, c'est par amour ou par séduction, voilà. Le deuxième enfant...
Ou bien par erreur de contraception. Hein.
Par erreur de contraception, oui, mais alors du coup, on est... voilà, le papa est honnête, il épouse la fille. Ok, bon, d'accord. Moi, j'ai fait des photos quand j'étais lycéen chez Grimaud, je rappelle ce nom, photographe Grimaud à Haguenau. Il y avait Asman et Grimaud. Et je faisais des photos de mariage et il fallait mettre le bouquet de fleurs sur le ventre de la maman pour ne pas voir qu'elle était au sixième mois. C'était quand même assez rigolo, la honte, surtout, la fille, elle était là. Bon, le deuxième, c'est peut-être aussi un accident. Le troisième, c'est les allocs. Le quatrième, c'est l'habitude. Bon, c'est un peu cynique, hein, tout
et
ça.
Le et le cinquième, tout. C'est vraiment une erreur.
Ben, le cinquième, c'est...
Ou le voisin.
Le cinquième, parfois, c'est le papa qui ne veut pas, la maman aimerait bien en avoir un autre. Il y avait une actrice qui disait qu'elle adorait être enceinte, tout le temps enceinte.
Ça, c'est aussi une maladie. Hein.
Oui. Enfin, bon.
Je ne sais pas, c'est vrai.
Mon papa est vosgien, c'était des familles entre 11 et 15 enfants. Hein.
Oui. Parce qu'une fois que tu les as pondus, il faut quand même les élever.
Oui, mais des femmes qui disent « j'aime être enceinte, j'aime être dans cet état-là », il y a une espèce d'état d'extase comme ça à l'être,
moi,
j'ai entendu.
Moi, j'adore fumer de la marijuana, c'est ce que j'en fume tous les jours.
Bon, Maria Leshinska, elle avait dit, elle a fait, Louis XV lui a quand même fait 10 enfants, et elle disait « coucher, toujours coucher », parce qu'elle était enceinte tout le temps, jusqu'à ce qu'elle arrive à faire celui qui sera le garçon, qui sera le grand-père de Louis XVI. Hein. Et après, Louis XV, il a fait 68 bâtards, répertoriés. J'aime bien raconter cette histoire, mais... Oui.
Je pense toujours à ma grand-mère sur ces histoires de familles nombreuses, puisque je viens d'une famille où il y a eu... Ma grand-mère a eu 10 enfants. Et elle m'a dit, une fois en confidence, que 10, elle les aimait tous, mais que c'était quand même un peu trop. Et elle a conclu, « Mai sposare un italiano, n'épouse jamais un italien. » Enfin, mon grand-père était italien, mes parents sont italiens.
Et toi, tu étais sa préférée, quand même? Non. Est-ce qu'il y a des préférés?
Non, je crois pas. J'étais une... Mais il y en avait tellement...
Ah
je
oui.
veux dire...
numéro 1, numéro 4, faites la vaisselle.
Non, je ne sais pas combien on était de cousins, c'est monstrueux.
Voilà. Ozu, est-ce que vous avez des frères et sœurs?
Oui. Oui, mais avant de parler des frères, on parle justement de ça. Donc, ma grand-mère m'a dit que quand elle avait eu ma mère, comme elle ne voulait plus d'enfants parce qu'elle en a fait 7... Elle a fait beaucoup de vélo pour qu'elle meure, ma mère meure dans son ventre, mais finalement ça n'a pas marché. Donc, et...
Heureusement donc, parce que tu es là.
Donc vous êtes un fanat du Tour de France alors.
Hein? D'ailleurs, j'avais un vélo qui avait le nom, c'était Jacques Anquetil. C'est ça.
Jacques Anquetil, oui.
J'avais un vélo comme ça avant, il y a quelques années, moi.
Ah oui.
Oui. Et donc en parlant des frères et des sœurs, j'ai connu un demi-frère, et bon, qui n'était pas grand-chose. Et après...
C'est toujours quelqu'un.
Oui, mais bon, ça fait au moins 20 ans que je ne l'ai pas vu. Donc,
Je ne le pas grand-chose dans votre souvenir.
Tout à fait. Voilà. Et cet été, donc, j'ai demandé le livret de famille à la mairie du quartier, parce que je voulais savoir comment c'était fait, le côté paternel. Et là, j'ai appris que mon père, que je n'ai pas vu depuis 20 ans, s'était marié 4 fois. Wow. Et j'ai une demi-frère qui a 57 ans. Et après encore, j'ai un demi-frère qui a environ 50 ans, et donc j'ai au moins 3 demi-frères, et encore une demi... C'est ça. C'est comme ça.
Est-ce que ça vous rend joyeux ou triste?
De les avoir.
Oui, et de savoir.
Pas du tout, parce que je ne l'ai jamais connu, et je n'ai même pas envie de les connaître.
Non, hein. Vous n'avez pas un vague lien de, je sais pas, de famille, de sang de...
Ah non, parce que si, bon, si ce sont des gens corrects, pourquoi pas, mais si, oui. S'ils sont...
Ah si, c'est des brigands, oui.
Ah oui, oui, oui.
Si par exemple, vous aviez une sœur qui serait
qui aimante de l'argent.
Mais non, quelle horreur, elle était la mère de Strasbourg, par exemple. Vous apprenez que Jeanne, c'est votre
sœur.
Mais non. Voilà, vous apprenez tout d'un coup quelque chose comme ça serait quand même assez jubilatoire, non?
C'est vrai. Hein.
Oui.
Oui. Bon. Mais bon, dans ma famille, je ne pense pas que ce soit le cas. Bon,
d'accord. Bah, écoutez, famille, je vous hais, et puis parfois, on vous adore. C'était l'épisode numéro 19 de « Vous l'avez bien connu ». Avec aujourd'hui Ozu Schreiner-Dieparer, professeur de japonais, Zoé Harpel, sage-femme, David Gondard, sage-femme, Kay Beck, guitariste Gibson, et Claire Pedotti, cuisinière en école maternelle. Mais le plus beau métier du monde, c'est d'apprendre à un enfant à lire. À la technique, notre ami Thomas Marinelli. On se retrouve le mardi à 11h30 et le dimanche à midi. Kozawa Mizoguchi Ozu. C'est les trois mots que je sais dire en japonais. And my name is Ambroise Perrin.